France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nous ne sommes pas une génération d'auteurs de films. Viendront des gamins qui ont aujourd'hui 20 ans, nous étions au lendemain de la guerre, qui feront du cinéma parce que le cinéma est devenu le moyen d'expression. Celui qui parle a raison, la nouvelle vague, ce sera 10 ans plus tard et l'on connaît le nom des gamins en question, des garçons. On ne semble pas imaginer que puissent exister des réalisatrices ou des scénaristes femmes. Les hommes, rassemblés pour l'occasion, ne sont guère d'accord entre eux. Et l'ambiance, comment dire, n'est pas des plus chaleureuses. Qui est l'auteur d'un film? Ah, de la poule ou de l'œuf? Mais on ne doit pas considérer l'œuf comme l'auteur de la mayonnaise. Il faut tenir compte de la ménagère. Seule allusion, comme par hasard, à la gent féminine. Tribune de Paris, première diffusion sur la chaîne nationale, le 20 février 1946.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
Avant-guerre, le cinéma était sur le plan économique la première industrie des États-Unis. Aujourd'hui, en France, l'industrie du film est appelée à jouer un rôle de premier plan dans le redressement de notre économie. Or, plus que n'importe quel autre pays, nous disposons du capital intellectuel nécessaire. Et comme le côté artistique ne peut être séparé de l'aspect commercial du problème, nous avons cru opportun d'ouvrir ce soir un débat sur ce thème « Qui est l'auteur d'un film ?» Pour répondre à cette question, Suzanne Catelin a réuni autour de notre micro des personnalités du monde cinématographique dont la valeur professionnelle est incontestable.
Très sportivement, malgré les polémiques très vives qu'ils ont souvent opposées, Marcel Lherbier, Henri Janson, Claude Autant-Lara, Pierre Laroche et Jean Grémillon ont accepté de se rencontrer. Ils sont dans notre studio, en compagnie de Paul Guimard. Ils n'ont rien préparé, rien écrit et vont simplement, en toute franchise, défendre leurs convictions respectives.
Aussi, sans plus de préambule, nous passons la parole à Paul Guimard.
Eh bien, le mieux est d'ouvrir la discussion tout de suite. Nous posons donc la question, quel est l'auteur d'un film? Voulez-vous, Marcel Lherbier, nous fixer tout de suite votre position?
Je la fixerai d'autant plus volontiers que jusqu'à cet an dernier, ça remonte quand même à une quinzaine d'années, il n'y avait aucune difficulté dans aucun secteur du public pour reconnaître que l'auteur d'un film était son réalisateur. Je parle évidemment du temps du film muet. De ce temps-là, le créateur des images d'un film était vraiment l'auteur du film. Depuis quelque temps, on a eu une tendance dans une certaine partie de l'opinion ou de la presse ou de la critique à croire ou à faire croire que l'auteur littéraire du scénario ou du dialogue pouvait être éventuellement considéré comme l'auteur du film. Ça voudrait dire que le réalisateur des images du film, c'est-à-dire celui qui met en œuvre tout le film sous sa forme plastique et figurative, ne serait pas un créateur. Or, s'il est un créateur, il est de toute évidence un auteur.
Ça me paraît évident.
Qu'est-ce que tu en penses, Henri?
Moi, je pense que c'est une question qui ne se pose pas. Pour moi, l'auteur d'un film est le monsieur qui, avec un porte-plume, un encrier et une rame du papier, écrit une histoire, en écrit le dialogue. Un scénario est une œuvre qui existe en soi, qui peut être publiée même. Le cinéma, le metteur en scène, n'est-ce pas, donne à cette œuvre un aspect différent de l'aspect qu'elle a lorsqu'elle est publiée, lorsque c'est un ouvrage. Mais en soi, un scénario existe déjà. Donc, l'auteur du film est l'auteur du scénario. On peut faire un scénario sans tourner le film, mais on ne peut pas faire un film sans scénario, j'imagine.
Oui, et en plus, on peut confier un scénario à 4 ou 5 metteurs en scène différents, et ce scénario aura 4 ou 5 valeurs plastiques différentes.
Oui, d'accord, mais si vous me permettez, Pierre Laroche, on a peut-être mal posé la question. Voulez-vous que nous la posions sous l'aspect suivant ? Qui est-ce qui, dans un film, porte la principale responsabilité ou de son échec ou de sa réussite ?
D'après ce que vient de dire notre camarade Janson, il suffirait de faire un bon scénario pour avoir un bon film. C'est bien comme ça que je l'ai compris.
Tout est une question d'espèce, bien entendu.
Enfin, il y a plus de chance de faire un bon film avec un bon scénario qu'avec un mauvais.
Voilà. Oui, mais il ne suffit pas d'avoir un bon scénario pour faire un bon film. Non. Il y a donc une part d'intervention, une part de création supplémentaire.
Ah, mais ça, nous ne discutons pas, ça.
Non, mais nous pourrions demander à Henri Janson, qui a été, je crois, responsable de Pépé Moko, s'il se sent également responsable du film Casbah, qui a été fait par mon ami Charles Boyer en Amérique, sur le même thème. Il faut dire que, par conséquent, deux scénarios de base ont donné deux films absolument différents et d'une valeur très inégale.
Je ne me tiens pas du tout pour responsable de Pépé Moko. Je ne suis dans Pépé Moko qu'un des nombreux collaborateurs du scénario. Pépé Moko est un cas tout à fait particulier. J'estime que, si vous voulez mon avis, alors, j'estime que l'auteur du Pépé Moko, c'est Duvivier. Dans ce cas-là.
Par conséquent,
parce
metteur en scène.
Parce que il s'est trouvé que je suis arrivé dans ce scénario alors qu'il avait été déjà fait, écrit une fois, nous l'avons réécrit en 15 jours, etc. En fait, c'est une histoire très compliquée, n'est-ce pas? Le responsable de Pépé Moko et l'auteur de Pépé Moko, c'est Duvivier. Et l'homme qui porte une partie du succès de Pépé Moko, c'est Jean Renoir, parce qu'ayant rencontré Duvivier, il lui a montré les défauts de son scénario.
Oui, d'accord. Écoutez, Henri Janson, il y aurait peut-être une chose qui serait intéressante à savoir aussi. C'est pourquoi la question se pose maintenant, alors que, comme l'indiquait Marcel Lherbier, elle ne se posait pas il y a 20 ans.
Bah, c'est un peu de la faute de tout le monde. Il y a de notre faute à Henri Janson et à tous les journalistes qui, pendant 15 ou 20 ans, ont dit un film de. Et un film de, à mon avis, c'est une erreur. Par exemple, quand... Excusez-moi, mon cher Lherbier, mais quand vous faites La vie de Bohème et qu'on est un film de Lherbier, on sourit un peu. C'est pas que je reconnaisse une valeur littéraire extraordinaire à M. Murger, mais il y a eu M. Murger avant M. Lherbier. Vous comprenez?
Oui, mais...
Et un film de, tout le mal vient de là.
Je... Si vous permettez, je crois que M. Marcel Lherbier va vous répondre.
Je voudrais dire, n'est-ce pas, que, à ma connaissance, Murger n'a jamais fait de film. Il a eu tort, d'ailleurs, il en aurait peut-être fait d'excellents et bien meilleurs que les miens. Mais quand il s'agit d'un film de, je trouverais ridicule qu'on dise un film de Murger. Murger se dirait tout d'un coup, je ne savais même pas jouer du trombone, on me fait jouer du trombone, n'est-ce pas? C'est trop drôle. Et d'ailleurs, j'ai vu votre président et mon ami, M. Marcel Pagnol, dire dernièrement à propos de Naïs, un film de Marcel Pagnol. On croirait que Zola n'avait jamais existé.
Oui, c'est exactement ce que nous reprochons à Pagnol, d'ailleurs aussi. Non, mais c'est... Je sais bien que M. Murger, croyez-moi, je sais aussi que le cinéma n'existait pas autant de Murger, mais un film de Murger ou un film de Marcel Lherbier, le tout me semble un peu ridicule.
Bon, par conséquent, qui est-ce qui devrait signer un film?
Bien, on pourrait peut-être dire...
Bon, vous permettez, Jean Lara a l'air de vouloir...
Je crois que c'est sur la définition du mot auteur.
Oui, je crois
que gît le problème. Nous avons entendu des avis... parfois baroque, par exemple celui du substitut Frémicourt, qui nous a déclaré, et dans un arrêt assez étonnant, que le véritable auteur d'un film, c'était le producteur.
Sur Isbé, je crois.
Non, c'était le substitut Frémicourt. Hein. Si l'auteur d'un film est celui qui se dégage du lot de l'équipe, eh bien, qui marque le film de sa personnalité, il se peut que ce soit quelquefois l'auteur, quelquefois le réalisateur, quelquefois aussi même la vedette. Mais moi je crois que le véritable auteur d'un film, c'est celui qui en est le responsable artistique. Et je crois que l'on ne peut pas dénier au réalisateur du film, au metteur en scène, d'être ce personnage.
Non, écoutez, si vous permettez, Jean Grémillon jusqu'ici n'a rien dit.
Non, je m'intéresse avec avoir... énormément d'intérêt tout ce qu'on a dit. Et je voudrais ramener ça à la discussion du début, c'est-à-dire à ce que Janson a déclaré, en disant un scénario existe, le film existe quand le scénario existe, il est là. Et le fait qu'il soit imprimé, ce scénario, puisqu'on pourrait l'imprimer, c'est à peu près la même chose que s'il était mis en image. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Si je pouvais risquer une comparaison, je dirais que c'est un peu comme une musique dont il n'y aurait que la basse, qui n'est même pas chiffrée, en supposant que quelqu'un interviendra, chiffrera cette basse et écrira cette musique. Or, on ne peut pas nier, on parle évidemment toujours un peu selon la façon dont on a travaillé, dont on a opéré. Tu te rappelles comment nous avons travaillé pour Lumière d'été, je sais comment j'ai travaillé pour d'autres films. Or, il n'y a jamais eu, selon moi, à l'origine d'une œuvre collective ou d'une œuvre commune, une séparation absolue. Et bien évident que dans l'organisation même de notre travail, j'intervenais pour une part qui n'était pas peut-être aussi grande que la vôtre, du fait même que vous aviez le porte-plume à la main. Mais cette espèce du complexe du porte-plume me fait très peur.
Mais vous avez le complexe de la caméra, vous autres.
Oui, oui, mais ça vient après, ça vient après. Ça, c'est encore autre chose.
Il a avoué, ça vient après.
Oui, oui, naturellement. Forcément que ça.
Dans l'ordre des choses, dans l'ordre.
Non, les gens, d'accord.
Excellent aveu.
C'est pourquoi, pour revenir exactement à ce que nous disions, je ne crois pas que Janson ait totalement raison, enfin, selon moi, bien sûr. Quand il dit que le film est là, quand le scénario est là. Parce qu'on a vu vraiment des exemples. Tu disais tout à l'heure, toi, Laroche, que, naturellement, on fait un meilleur film avec un bon scénario. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Mais on a vu quelquefois des films bons sur des scénarios, disons, passables, simplement, où il y a vraiment eu une intervention, où il y a eu une sorte d'apport, et pour moi, de création, qui dépassait exactement la matière qui vous était proposée. Je ne pense pas que ni toi ni vous ne pourrez le nier, n'est-ce pas?
Bon, d'ailleurs, si vous permettez, en dehors des cas particuliers, on doit tout de même pouvoir établir une règle générale.
Non, car ce sont des cas d'espèce.
Je crois que
chaque film est un cas d'espèce. Et je crois que ce qui provoque cette question, qui est l'auteur d'un film, ce n'est pas seulement une querelle de mots, c'est le désordre de l'industrie cinématographique, son manque d'organisation. Vous comprenez que c'est à la fois un métier plein de vieilles traditions au cinéma, quoique ce soit un art jeune. Jamais on n'a vu dans un studio autant de gens se réclamer d'exemple, dire on ne peut pas prendre tel personnage sous tel angle, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ceci. Par exemple, l'autre jour, je me trouvais dans le bureau d'un producteur, je voyais les photos du film de Cocteau. Et ce sont des photos admirables. Et la plupart des personnages s'agitaient devant des draps de lit tendus, blancs. Et tous les effets étaient des effets de noir et de blanc.
Oui.
Ordinairement, j'ai toujours entendu dans un studio, par exemple, un opérateur dire « Ah, je ne peux pas photographier sur le blanc, passez-moi ça au jaune ». Donc c'est un métier, aussi bien techniquement que littérairement, qui est plein de vieilles traditions, plein de choses plus vieilles que le théâtre. On a l'impression qu'elles sont plus vieilles que le théâtre, n'est-ce pas? Et jusqu'ici, le cinéma a manqué d'organisation. On engage quelqu'un pour faire un scénario. Ensuite, on le remercie parce que le producteur ne sait jamais quel est le talent du monsieur auquel il s'adresse, si c'est un écrivain spirituel ou un écrivain profond ou un romancier d'aventure, n'est-ce pas? Alors on le remercie, on en engage un troisième, puis un quatrième, un cinquième fait le dialogue ne convient pas, on en engage un septième. Finalement, plus personne ne sait, au fond, qui est l'auteur du scénario. D'autre part, je crois que...
C'est pareil pour les metteurs en scène, d'ailleurs, on les change encore le tournage,
etc.
Mais vous oubliez une chose qui me paraît extrêmement importante pour vous.
J'indique aux auditeurs que c'est Jean Grémillon qui parle.
Oui. Vous écrivez un texte qui est magnifique. Vous en êtes très content, tout le monde en est très content, et vous le donnez à un acteur, même quelquefois une vedette. Il dit, c'est superbe, c'est magnifique, tu n'as jamais eu autant de génie. Et le lendemain matin, vous êtes prêt à tourner, on a bien arrangé la table de nuit et le divan, et il vous sort un petit papier avec un texte de lui, un texte qui porte, un texte qui fait de l'effet. Ça arrive aussi, ces accidents-là, vous savez.
Oui, mais à ce moment, le metteur en scène a un rôle primordial à jouer. Je lui accorde le rôle primordial dans cette occasion-là. Ah,
pour le respecter bien.
Oui, c'est ça. Et alors, je crois aussi, n'est-ce pas, qu'au fond, les écrivains de cinéma, si vous voulez, les auteurs de films, sont des gens qui se sont improvisés auteurs de films, c'est-à-dire qui sont venus au monde à une époque où le cinéma n'avait pas cette importance, qui n'étaient pas préparés à cette profession. Ils étaient partis soit pour être auteurs dramatiques ou romanciers, et par la force des choses, ils ont été amenés à écrire des scénarios. Mais je crois, moi, que maintenant, il y a des jeunes gens qui avaient... qui sont nés à l'époque du parlant, n'est-ce pas, et qui vont venir tout naturellement au cinéma, qui n'auront pas l'idée du tout d'être des romanciers ou des chansonniers ou des poètes montmartrois, ce que vous voulez, n'est-ce pas, ou des auteurs dramatiques, et qui seront tout naturellement des auteurs de films.
Oui,
nous ne sommes pas, une génération, au fond, d'auteurs de films.
Oui, Jean Grémillard.
Oui, je trouve la thèse de Janson excellente, parce qu'elle prouve ceci, c'est que si des gamins qui ont maintenant 20 ans et qui viennent de découvrir le cinéma ont envie de faire ce métier, c'est qu'ils commencent à exister quelque chose. Mais oui, vous-même, mon cher Janson, n'auriez jamais eu idée d'écrire des dialogues de films en 1920. Évidemment, vous auriez fait autre chose, vous auriez fait du théâtre, vous auriez écrit des romans, vous auriez fait de celui-là. Mais il existe donc un moyen d'expression qui est maintenant le cinéma. On commence à voir un petit peu clair, pas très clair, un petit peu, mais enfin, on conçoit très bien qu'un garçon jeune qui entre dans la vie ait envie de s'exprimer de cette façon-là et par ce moyen-là sans en employer aucun autre. C'est donc qu'il existe.
Oui, oui.
Alors, il faudrait bien voir un petit peu pourquoi il existe et en vertu de qui il a existé. Or, tout à l'heure, vous sembliez nier la vertu du muet. Or, il me semble que tout de même le cinéma muet a fait que le cinéma existe aussi.
Non, non, nous nions pas du tout la vertu du muet. L'estime que j'ai pour Marcel L'Herbier vient uniquement de ses films muets. Il le sait, et donc, tu comprends, Jean, c'est absolument faux. Le muet a été les premiers pas d'un art qui se perfectionne et qui n'en est vraiment qu'à ses premiers pas, même maintenant.
Oui, mais il existe bien.
Il existe grâce au cinéma muet, aux metteurs en scène du muet qui étaient en même temps les auteurs de leur scénario dans la plupart des cas.
Alors, si vous voulez me permettre, Laroche, il y a une question que je voudrais poser, et à la suite d'ailleurs de ce qu'a dit Henri Janson. En admettant que le scénario utilisé n'ait subi aucune retouche, c'est-à-dire soit vraiment l'œuvre d'un homme, que le metteur en scène n'ait aucune servitude, que soit un excellent scénario, qu'il y ait un excellent metteur en scène, qui est-ce qui porte le plus la responsabilité du film? Marcel L'Herbier, à votre avis?
Je dis qu'il est impossible que le film ne porte pas devant le public le caractère bon ou mauvais du réalisateur, car c'est le réalisateur qui l'a peint en image.
Je vous remercie. Henri Janson.
Moi, je trouve que tout est cas d'espèce, et j'estime, par exemple, pour reprendre mon cas personnel, n'est-ce pas, j'estime que je suis l'auteur et le responsable, si vous voulez, d'Entrée des artistes, par exemple, et que Christian Jacques est le responsable de Boule de Suif.
Non, mais je prends un cas théorique. Je prends un cas théorique. Il y a un excellent scénario, il y a un excellent metteur en scène. Qui est-ce qui, à votre avis, porte la plus grande responsabilité, soit dans l'échec, soit dans le succès?
Eh bien, Janson vient très exactement de répondre. Dans Boule de Suif, il y avait un excellent scénariste et dialogueur, c'était M. Henri Janson. Il y avait un excellent réalisateur, c'était M. Christian Jacques. Or, il reconnaît que c'est Christian Jacques qui a la responsabilité artistique devant le public du film, art figuratif, Boule de Suif.
Bon, Jean Grémillon, avez-vous un avis, vous, à donner?
Pas différent de celui de L'Herbier, non.
Et vous, Laroche?
Et Guy de Maupassant, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire de Boule de Suif?
Il est Il est l'auteur de Boule de Suif.
Eh bien, messieurs, puisqu'en toute chose, il faut considérer la fin, je vais vous demander non pas de conclure, mais tout au moins de vous résumer. À votre avis, qu'est-ce qui devrait signer un film? Marcel L'Herbier?
Moi, évidemment, je suis très troublé. Il me semble que ça se dégage du débat tel qu'il vient de s'instituer. Et de toute façon, il me semble qu'on doit considérer que l'œuf n'est pas l'auteur de la mayonnaise. Il y a la main de la cuisinière.
Merci, Pierre Laroche.
Moi, je trouve qu'on devrait signer, par exemple, comme tous les cas d'espèce, par exemple, un film de Henri Janson ou Jacques Prévert, réalisé par Christian Jacques ou Marcel L'Herbier ou Marcel Carnet.
Merci. Claude Autant-Lara.
Je trouve que, pour moi, ces discriminations sont assez désagréables. L'auteur et le réalisateur devraient travailler la main dans la main, le responsable artistique du film étant en définitive, malgré tout, le metteur en scène.
Merci. Henri Janson.
Je crois que, contrairement à Marcel L'Herbier, n'est-ce pas, je crois que l'auteur de l'œuf, c'est la poule.
Merci. Enfin, Jean Grémillon.
Eh bien, j'avais déjà pensé à cette question et pensant que de signer un film, film 2, pouvait susciter énormément de troubles dans les équipes, J'ai signé deux films de cette façon-là et entends m'y tenir. Le ciel est à vous par Jean Grémillon, scénario et dialogue d'Albert Valentin et Charles Spack.
Je voudrais poser une petite question.
Je vous en prie, Henri-Jean.
Croyez-vous que les problèmes que nous venons d'étudier ici intéressent vraiment le public et l'auditeur?
Ceci, comme disait Kipling, est une autre histoire.
Vous venez d'entendre Marcel L'Herbier, Henri Janson, Claude Autant-Lara, Pierre Laroche et Jean Grémillon. Ils ne sont pas d'accord, ils vous l'ont dit, ils vous ont dit aussi pourquoi. Notre rôle n'est pas de conclure. Au surplus, quel que soit l'auteur d'un film, l'important est que l'industrie cinématographique française joue effectivement le rôle qu'on attend d'elle. Et sur ce point, tout le monde sera d'accord. Notre émission est terminée. Écoutez demain soir à 22h la Tribune de Paris.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 février 1946 à 22h très certainement. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.